Oui, en effet, je commencerai par une salutation écrite de Paul qui date des années 50 après Jésus-Christ, aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On la retrouve en Éphésiens 1-2, Romains 1-7, 1 Corinthiens 1-3, 2 Corinthiens 1-2, Galates 1-3 et Tite 1-2. Avec cette précision dans Tite, de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur et Sauveur. Oui, le Seigneur Jésus est Seigneur et Sauveur. Paul ajoute dans sa lettre aux Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et aux Corinthiens, dans sa seconde lettre, au chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et c'est vrai, nous avons par moments des afflictions, et les uns les autres, nous nous soutenons et nous prions les uns pour les autres. Quant à Pierre, en sa première lettre au chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Je crois que tout est dit dans ces paroles. Ainsi, pour l'Église, les Églises et l'unité de l'Esprit répandue pour ces choses, oui, amen. Combien d'amen ont suivi ? Oui, amen, en vérité, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, remplis-moi de ta présence, garde-moi par ton esprit, ta foi. Quelle propagation de ces lettres manuscrites qui furent ensuite imprimées, se sont transmises en grec, en latin, furent traduites et diffusées dans de nombreuses langues dans le monde entier aujourd'hui. Et désormais, numérisées, avec des applis sur les téléphones portables qui permettent de lire ou d'entendre dans sa propre langue. Nous avons un aperçu dans un site qui porte le nom de Wycliffe.net. Vous irez le voir. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi le témoignage de cet homme. Ainsi, un peu à la fois, des prophéties se révèlent, s'accomplissent avec ce qui fut écrit avant et ce qui fut écrit après la mort et la résurrection de Jésus. Nous prenons maintenant les évangiles. Jean 19, 35. Celui qui l'a vu et en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os sera brisé. Et d'ailleurs, ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. La suite de l'évangile de Jean se poursuit ainsi. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sabbat était proche. Mais maintenant, je voudrais reprendre aussi les trois autres évangiles. Le soir étant venu, dans Matthieu 27, nous lisons verset 57, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, en l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Si je prends un troisième récit, Pilate s'étonna qu'il fût mort, en parlant de Jésus, qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le développa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Je termine par Luc. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc et où personne n'avait encore été mis. Pierre, après la Pentecôte, dans le livre des Actes, au chapitre 2, fait cette déclaration au peuple rassemblé, en reprenant aussi le psaume 16 du roi David, versets 8 à 11, un psaume prophétique et messianique, écrit bien avant. Ainsi Pierre dit, « Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, reprend Pierre, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Puis ensuite, Paul ensuite a répandu la nouvelle, nous le savons, et il a écrit une longue lettre aussi à l'église de Corinthe en Grèce en disant en 1 Corinthiens 15, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, qui est Pierre, puis aux 12. » Alors je vous ai lu tous ces passages en souhaitant aussi m'arrêter sur ce mot « enseveli ». Enseveli. Quelle image nous avons de ce mot quand nous entendons, on parlait d'avalanche, de personnes ensevelies, d'effondrement, de personnes ensevelies. C'est vrai que recouvert de poussière, et on peut même aussi prendre d'autres mots, envahi. J'ai recherché ces mots avec EN et puis qui terminaient par un I. Et j'ai trouvé aussi enfoui, englouti, envahi, et puis aussi endormi, enfermé. Et là, c'est enterré. Voilà. On a aussi ces images qui peuvent nous venir à l'esprit. Tous ces mots. Qu'est-ce qui convient ici dans ce texte ? Alors, quel éclairage d'un récit et d'un autre ? Et j'ai été moi-même un petit peu repris dans ma pensée du mot enseveli. Quand les différents journaux télévisés ou écrits rapportent des faits, chacun fait son récit ou rapport selon ce qu'il a vu et entendu lui-même, ou selon ce que les témoins ont rapporté. Et les récits diffèrent selon les témoins, tout en apportant une ou autre précision. Et c'est ce qui se passe avec ces quatre évangiles, ces quatre récits. Le récit de Jean nous éclaire sur le déroulement de ce qui s'est passé en fin de journée après la mort de Jésus, quand deux personnes interviennent. Joseph d'Arimathée, qui réclame le corps de Jésus à Pilate et achète un linceul ou un linge blanc, et Nicodème, qui lui apporte des aromates. Et il est précisé, comme c'est la coutume d'ensevelir, soit entourer le corps de baume, d'aromates. Effectivement, Jésus ne fut pas enterré, mais enseveli, recouvert d'un linceul de bandes et sur son visage d'un linge blanc. Comme pour un roi, pour un pharaon en Égypte, on ensevelissait les corps. Mais tout cela avec Jésus s'est passé dans la hâte, dans la précipitation. On était le soir, la veille du sabbat, de la fête des Juifs, qui rappelait la Pâque juive depuis Moïse, avec la sortie d'Égypte. Et dans Jean 20, nous pouvons lire, après la résurrection, il est dit au verset 6, Simon-Pierre, qui suivait Jean, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Cela rappelle un autre passage de l'évangile de Jean, lors de la résurrection de Lazare. Jean 11, 43, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » En vérité, l'essentiel, rien ne pouvait retenir Jésus dans la mort. Et Jésus avait reçu le pouvoir sur la mort. Jésus dit à Marthe, avant de ressusciter Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Cela doit résonner. Nous lisons dans Actes 2, 23, Jésus livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ces récits furent transmis. La question demeure pour chacun. Crois-tu cela ? Un homme y a cru et il a voulu que la Bible fût traduite en anglais. Pour toute un peuple aussi qui avait peut-être la Bible reçue en latin. Beaucoup de peuples ont reçu la Bible traduite en latin. Énormément de peuples. Et encore dernièrement, dans les années 1950, des églises, et beaucoup d'églises encore, et même après, donnaient une partie de toute la liturgie en latin. Les textes étaient dits en latin. Que comprenait le peuple? Que comprenaient les assemblées? Des mots en latin, si on n'a pas la connaissance du latin, qui est très difficile, où tout est inversé. Les mots sont inversés, les bouts de phrases, etc. Un peu comme l'allemand aussi. Les choses sont inversées. Eh bien, un homme a reçu ces textes en latin, mais il a voulu que cela ne soit pas simplement, c'était un Anglais, et il a voulu que les Anglais et le peuple autour de lui reçoivent, comprennent ce qui était dit. Et il a traduit, il a commencé avec une équipe à traduire les textes en anglais. Il ne l'a pas fait tout seul. Et c'était au XIVe siècle, et c'est un témoignage, c'est pour ça que je vous invite à le relire. Il y a des témoignages là-dessus, c'est John Wycliffe, il s'appelle. Et son témoignage est édifiant, il est donné dans Ressources chrétiennes, intitulé même « L'étoile du matin de la réforme ». L'étoile du matin de la réforme. Et ce fut effectivement quelque chose d'extraordinaire. Pour les hommes et les Anglais en particulier, d'entendre, de comprendre, de pouvoir lire ou entendre les textes dans leur propre langue. Dans leur propre langue. Et tout cela est important. La Bible, avec au moins une partie des Écritures, est en 2024. Vous voyez, là, j'étais au XIVe siècle. Et maintenant, je vous parle du XXIe siècle. Elle est en 2024, traduite en 3756 langues. Et elle est donc accessible à 7,3 milliards de personnes, ce qui représente 98% de la population mondiale, dont 6 milliards ont accès à la Bible entière. Oui, Dieu veille sur sa parole et il nous emploie, nous qui l'avons reçue, pour la diffuser et la vivre. La diffuser et la vivre. Enseveli, quel bon parfum. C'est une autre image. Un art pur. Certains se souviennent de cette femme qui s'est mise à genoux devant Jésus, à laver ses pieds, la couvert de parfum. Dans le psaume 45, il est parlé de trois parfums, la myrrhe, l'aloès, la casse. Et quelque part aussi, si on recherche tout cela, qu'un encens composé, diront d'autres. Un encens composé. La bonne odeur de Christ. Dieu attend de nous aussi, et particulièrement, un parfum de louange, de bénédiction. Comme cité au début, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. Allez annoncer le nom de Jésus parmi les nations. N'est-ce pas ce qui est fait, accompli, et ce qui continue, se poursuit? C'est une œuvre merveilleuse de Dieu que nous avons sous les yeux. En Hébreu 13, il est dit, 13-12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Pour la Sainte Seine que nous allons prendre maintenant, souvenons de ce bon dépôt ou profession de foi. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est fait. C'est accompli. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés. Nous marchons en nouveauté de vie. Si du monde nous recevons pleinement ces choses. Mais combien c'est difficile. au travers toutes les épreuves de la vie. Mais c'est pour cela que Dieu a formé aussi l'Église, pour que nous nous soutenions les uns les autres. Nous étions là encore à 8 ce vendredi et évoquions aussi non seulement nous-mêmes, nos difficultés, nos propres difficultés, mais nous portions au Seigneur tous ceux qui sont dans des difficultés et des épreuves. Et cela, c'est l'Église, se soutenir les uns les autres. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, sans venir à la réunion prière, soutiennent les uns et les autres, s'appellent, se prennent des nouvelles des uns et des autres, vont visiter. Tout cela, c'est à la gloire de Dieu. Oui, merci Seigneur d'avoir formé l'Église ici, à Lambersart, depuis bientôt 70 ans. Voilà. Et tout cela se perpétue. Aujourd'hui, on parle aussi de quelque chose qui, pour moi, me fait du bien. Cette association nouvellement faite, Élim en action. Oui, Dieu renouvelle les générations. Et Dieu place en avant. Tout continue, tout se poursuit. Ayons un regard de rendre grâce, de reconnaissance, de remercier, de louange, de célébrer le Seigneur. Dans ma réflexion aussi, deux chants me sont venus à l'esprit. Ce sont des vieux chants, des vieux cantiques. Je ne vais pas les prendre, j'ai envie de les lire simplement. Et puis nous le leverons pour la Sainte Cène. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas terminé le verset, hein, qu'il a été enseveli. Voilà, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Eh bien, Dieu veut nous affermir dans notre foi. Chef couvert de blessures, meurtri pour nos péchés, pour nous pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleurs, des splendeurs éternelles naguère environnées, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon, tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur, daigne jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi, que puis-je faire ? Que t'offrir en retour ? Ah, du moins, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle, et rien jusqu'à la fin ne pourra, Dieu fidèle, me ravir de ta main, l'assurance. Et l'autre chant qui m'est venu à l'esprit, c'est Seigneur, que n'ai-je mis le voix ? Seigneur, que n'ai-je mis le voix ? Alors, il y a eu beaucoup de voix déjà ce matin. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi, ton nom sublime retentisse en tout lieu. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie et la paix dans nos cœurs. Désormais, je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula pour moi. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été reprises des évangiles et des actes des apôtres, qui ont été aussi reprises des épîtres et qui sont là pour nous servir aujourd'hui. Au travers ces chants aussi qui ont été composés par la suite, au travers les paroles qui sont transmises encore dans le monde entier, des chants de louanges, des formations des disciples, des formations des uns des autres, nous te rendons grâce parce que nous savons que ces paroles sont transmises encore à d'autres peuples, d'autres nations qui n'avaient pas encore eu ta parole. Nous te remercions parce que le travail d'évangélisation se poursuit dans le monde pour que des hommes, des femmes, des enfants puissent recevoir le salut, le secours, l'espérance de la gloire qui s'attache à ton appel. Gloire et louange à toi, Jésus. Amen.